RCF.
On évoque cette semaine la fraternité avec le père Benoît Tinetti qui vient d'écrire un ouvrage qui s'appelle « La fraternité sinon rien ». Alors à quoi ressemble cette fraternité? On l'a évoqué au cours des émissions précédentes, mais est-ce qu'il faut l'associer à la vulnérabilité? C'est-à-dire finalement, est-ce que la fraternité passe par la nécessité de dépendre de quelqu'un?
Ah ben ça, je dois dire que la grande illusion pour nous est d'imaginer qu'on ne dépend de personne. Ou de ne vouloir dépendre de personne. Vous savez, les gens qui vous disent « moi, je veux surtout ne rien devoir à personne », etc., etc. Ben, si, on doit forcément des choses aux autres, parce qu'on n'existe pas indépendamment des autres, et nous sommes d'abord des êtres de relation. Donc, on dépend toujours de quelqu'un. D'abord, on dépend de ceux qui nous ont donné la vie. C'est quand même le point de départ de nos existences, c'est que on n'est pas né tout seul. Donc, on est né d'un couple de personnes, souvent grâce à Dieu de leur amour, mais en tout cas, on est toujours né de quelqu'un. On vient de quelque part. Voilà. Donc, cette fragilité-là, elle fait que je dépends d'un autre. Voilà. Et si je veux m'émanciper de tout lien, à ce moment-là, ben, je me retrouve seul. Voilà, je me retrouve seul. Et donc, je perds cette dimension qui fait mon humanité, qui est cette relation à laquelle je suis appelé en permanence avec les autres. C'est-à-dire que l'homme est un être de relation. On le dit, on le redit, on le rabâche suffisamment.
On parle du vivre ensemble, on parle de l'être de relation, mais paradoxalement, la société valorise l'indépendance, valorise celui qui se débrouille seul, celui qui monte seul, celui qui...
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une juste dépendance, il y a une juste indépendance, une juste autonomie. C'est-à-dire qu'on a on n'est pas appelé à être un boulet les uns pour les autres, autant que possible. Enfin, essayer quand même, c'est mieux. Donc, et puis on aspire à pouvoir construire son existence. C'est-à-dire que c'est important de pouvoir advenir à soi, de pouvoir avoir des désirs, de pouvoir réaliser ses désirs, des aspirations, des rêves. C'est très important de vivre ainsi. Mais encore une fois, si vous voulez, le chemin sur lequel nous sommes invités à avancer est un chemin étroit, un chemin compliqué, où rien ne peut se faire au détriment d'autrui. Voilà. Et donc, je ne peux pas me construire contre les autres ou au détriment des autres. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué dans le quotidien de nos jours. Tellement compliqué que parfois, on se dit, basta, j'arrête d'y réfléchir. Et puis, de toute façon, ma bonne dame, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. On peut pas refaire la nature. Et c'est pas à mon âge que ça va changer. Mais voilà. Si il y a ça, on est appelé à être en permanence en vigilance, en intranquillité sur l'autre. Qu'est-ce qui se passe pour mon frère? Vous savez, il y a une expression qui est de plus en plus utilisée dans l'Église, qui est celle de synodalité. Voilà, on parle beaucoup de synodalité. La synodalité, c'est ce désir de pouvoir porter ensemble un projet, porter ensemble une responsabilité. Un synode, enfin l'esprit synodal que les catholiques travaillent et réfléchissent beaucoup aujourd'hui.
2023, le synode sur le synode.
D'où le synode sur le synode, voilà. C'est de nous dire en fait en permanence que ce qui se passe pour l'autre me concerne. Voilà. Tout ce qui touche mon frère me touche.
Alors c'est rester ouvert à l'autre et puis c'est parfois aussi le servir. Et dans ces cas-là, là on est sur un engagement beaucoup plus fort, on est sur une fraternité qui est celle du désir. Désir d'aider, le désir de se donner.
Bah, c'est-à-dire que si l'autre a du poids, a du prix à mes yeux à ce moment-là, je cherche autant que mes forces me le permettent, que mon temps me le permet, que mon intelligence me le permet, à être disponible à cet autre. Voilà. Et donc, y compris quand il est nécessaire de pouvoir lui venir en aide. Et encore une fois, lui venir en aide, y compris au sacrifice de ma propre tranquillité, de mon propre bien-être, de ma propre vie. Les gens vous disent, et soi-même on le pense, moi ça m'arrive de le penser, évidemment, comme tout le monde, mais évidemment on ne peut pas soulager toute la misère du monde. Évidemment, je ne peux pas, moi, accueillir chez moi tous les SDF, par exemple, c'est impossible. Ah ben oui, mais donc si on part de là, on ne fait rien. Mais on peut se dire aussi, je peux en accueillir un. Je peux en accueillir un. Ah bah oui, mais c'est une goutte d'eau. Ah bah c'est une vie, mon ami, c'est une vie. Et une vie, c'est énorme. Parce que tu as, toi-même, tu as une vie.
Donc c'est, est-ce que c'est assez dit dans les paroisses? Parce qu'on parle des communautés paroissiales, en réalité, est-ce que les communautés existent vraiment? Est-ce qu'on est bien des frères les uns pour les autres dans les paroisses déjà?
Vous avez des associations qui font ce travail dans l'église. Regardez Lazare, par exemple, ou l'APA. C'est toutes ces associations qui organisent le vivre ensemble entre personnes de la rue et jeunes professionnels. Ce qui se vit là est retransmis dans les paroisses. Et après,
votre dernier appel à la fraternité dans votre paroisse, ça date de quand?
À Lille, je viens d'arriver, donc j'ai pas encore eu vraiment le temps de leur en parler, mais je vais leur en parler, j'essaie de leur en parler le plus possible. À Paris, là où j'étais curé avant, je peux vous raconter une histoire assez courte, hein, si vous voulez. On a lancé à Paris, il y a maintenant une vingtaine d'années, une opération qui s'appelle Hiver solidaire, qui consiste pour les paroisses à accueillir pendant le temps de l'hiver, 3 mois, des SDF, et de les accueillir vraiment. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de leur ouvrir une salle en disant maintenant vous allez dormir là, vous serez au chaud et débrouillez-vous les amis. C'est que les paroissiens vont les accueillir comme s'ils étaient chez eux. Donc tous les soirs, pour le dîner, des paroissiens viennent préparer le dîner avec eux et le partager avec eux. Pareil pour le petit déjeuner. Et dans la nuit, il y a des paroissiens qui se relaient pour dormir là, parce qu'il y a une petite veillée où on joue aux cartes, on discute, puis après on dort, et pour être sûr que tout se passe bien, il y a un ou deux paroissiens qui viennent dormir là. Donc les gens viennent, prennent un sac de couchage, dorment là. C'est quand même très engageant, c'est quand même pas rien. Comme vous avez une journée de travail, une famille, machin, etc. Bon. Quand à Saint-Germain-des-Prés, où j'étais curé pendant quelques années, un jeune de la paroisse est venu, m'a dit « Benoît, il faut faire ça à Saint-Germain ». J'ai dit « Écoute, t'es gentil, c'est une paroisse étudiante, on peut pas tout faire, c'est les jeunes ici, c'est notre mission ». Il m'a dit « Si, il avait une telle force de conviction, que je lui ai dit « Écoute, vas-y, fais-moi un projet, puis on verra ». Il a fait un projet, et puis il est revenu avec, quelques temps plus tard, il m'a dit « Voilà, on pourrait accueillir 4 personnes, pendant du 8 décembre au 8 mars prochain, et voilà où ça se passerait, au rez-de-chaussée du presbytère ». Alors je dis « Mais ça c'est marrant, pourquoi tu me dis au rez-de-chaussée du presbytère et pas dans les salles paroissiales, parce que ce serait beaucoup plus simple ?» Il me dit « Bah, parce que si je veux que tu passes, il faut bien que ça soit en bas de chez toi ». Je dis « T'as bon point ». Et puis après, il m'a dit « Voilà, on va faire un appel ». Moi je lui dis « Mais enfin, t'es gentil, ici les gens, pendant les vacances de Noël, ils vont tous partir dans leur maison de campagne, faire du ski, en voyage, ou en vacances, enfin, hors de Paris. Il n'y aura personne pendant 15 jours. Qui est-ce qui va assurer la permanence, etc. » Il me dit, non, mais ça va marcher. On a fait un appel aux gens, aux paroissiens, et on leur a dit, il y a 4 gars qui vont arriver. Voilà. On veut pas votre argent. On veut juste votre temps, ce qui est le plus précieux, hein. Et donc, on veut que des gens viennent pour préparer et partager le dîner, la veillée, la nuit, le petit déjeuner, chaque jour, pendant 3 mois, etc. On a eu 235 personnes qui se sont inscrites. 235. Et des gens qui mettaient pas les pieds à la messe, parce que pour eux, l'église, la messe, ça les intéresse pas. Mais qui, par ce biais-là, sont venus dans la paroisse. Des conjoints, par exemple, la dame, elle va à la messe, son mari, ça l'emmerde. Et donc, il vient passer une nuit avec les SDF. Et, souvent, on dit, on n'y arrivera pas, ça marchera pas. Mais en fait, on sous-estime le désir des gens d'aimer et on sous-estime la capacité du cœur humain à aimer. Voilà. Parce que, on le rapporte à notre propre désir. Et donc, on dit, moi, j'ai pas envie de le faire, donc ils auront pas envie de le faire non plus. Mais si, les gens, ça les touche vachement. Et là où j'ai vu que ça avait marché, c'est quand j'ai vu une de mes paroissiennes avocates, quelques semaines après le début de l'opération, qui était, c'est dans la journée, les gars, ils étaient dans la rue, hein, ils vivaient leur vie, hein, les SDF qu'on accueillait. Elle était assise à côté d'un gars qu'on accueillait tous les soirs, qui faisait la manche devant une banque. Elle était assise à côté de lui, elle disait aux passants, donnez-lui, c'est un copain. Et bien si, ben là, c'est quand même formidable. Ce gars, en un coup d'autre mouvement, elle n'a pas sorti de sa misère, parce que 20 ans de rue, c'est des histoires lourdes. Mais elle a découvert que c'était son frère. Et lui, il a découvert qu'il avait une sœur. Mais c'est magnifique. Ça retire pas le gars du trottoir, ça empêche pas les problèmes de santé qu'on peut avoir, les problèmes personnels qu'on peut avoir, que ça. Mais ça change la vie.
Alors le pape François, qui a lancé la Journée mondiale des pauvres, évoque dans ce message qu'il délivrera en novembre 2021, il évoque comment les pauvres sont de véritables évangélisateurs, parce que justement, ils ont été les premiers à être évangélisés et qu'ils sont appelés à partager le bonheur du Seigneur et de son royaume. Au fond, le pape nous dit comment nous aussi, nous devons être ce refuge pour les autres.
D'abord, le pape nous dit que nous sommes tous des pauvres, parce que ça veut dire que pour évangéliser, il faut se reconnaître comme pauvre. Et c'est un des grands mérites de cette journée mondiale des pauvres qui a été lancée à Rome il y a 5 ans, c'est précisément de rappeler qu'on ne peut pas engager ses pas à la suite du Christ si on ne se reconnaît pas d'abord soi-même comme pauvre. Voilà, premièrement. Et ensuite, et moi j'ai trouvé ça, j'ai eu la chance de participer à cette journée mondiale à Rome il y a 5 ans. C'était magnifique. Et il y a eu ce moment extraordinaire où le pape a dit à tous ces pauvres gens qui étaient là, il y avait des SDF, il y avait des prostituées, il y avait des toxicos, il y avait des gens vraiment cassés, abîmés par la vie, qui portaient des choses tellement lourdes. Et le pape leur dit, c'est à vous que je confie la mission d'annoncer l'évangile. Autrement dit, c'est pas à ceux qui vous encadrent à qui je dis annoncez-leur l'évangile quand il y a des petits enfants qui savent pas lire et écrire, faites-leur le catéchisme, machin, etc. Non, non, c'est à vous les plus pauvres que je confie la mission de porter l'évangile au monde. Et ça, je trouve que c'est totalement révolutionnaire parce que dans l'Église, faut bien le dire, les pauvres, souvent, on les voit comme ceux dont on doit s'occuper. Mais là, le pape dit, vous, les pauvres, vous allez vous occuper des riches et vous allez leur annoncer l'Évangile pour qu'ils comprennent qu'ils sont pauvres et pour qu'ils arrêtent de penser qu'ils sont riches. Et ça, c'est vraiment un bouleversement de l'ordre des choses. Parce que l'ordre établi bien pensant, c'est que celui qui a doit donner à celui qui n'a pas. Et c'est très important. Hein. Il ne s'agit pas de dire que ça ne sert à rien. Bien sûr qu'il faut donner, faire la charité, comme on dit, veiller sur l'autre. Mais ne pas faire du pauvre uniquement l'instrument de notre bonté. Ne pas faire du pauvre l'assister. On voit bien que c'est une tentation permanente, y compris dans la vie politique d'une nation, de faire des pauvres des assistés. Mais de dire aux pauvres, c'est vous qui allait fiche le feu à la société, en expliquant à tous les autres, à ceux qui s'imaginent qu'ils sont riches, machin, que ça, qu'en fait ils sont pauvres comme vous. Peut-être pas matériellement, mais spirituellement. Et qu'ils ont besoin de découvrir la puissance de l'amour de Dieu pour vivre.
Mais pour ça, il faut arrêter d'être agacé par les pauvres, il faut prendre ce temps avec eux.
Oui, pas oui, facile. Oui, mais moi je rêverais, j'aimerais bien, tiens, ça, voilà, quelque chose qui pourrait être une belle chose et qui se fait déjà dans beaucoup d'endroits. Mais à Saint-Maurice, à Lille, l'église que j'accompagne, il y a beaucoup ce fait là-dedans. C'est-à-dire permettre que des pauvres puissent être ceux qui entraînent les autres et pas uniquement ceux qui bénéficient de la générosité d'autrui, qui entraînent. Voilà. Allez, mettez-vous au premier rang. Mettons le bras cassé. Le mec qui est fracassé par la vie au premier rang de nos communautés. Mettons les gens les uns à côté des autres et pas par espèce, mais mélangeons, voilà, mélangeons. La communauté chrétienne, elle doit être ce lieu où en fait, c'est pas qu'on distingue pas entre les uns et les autres, c'est qu'on apprend les uns des autres qu'on est absolument égaux en dignité. Et que quelles que soient les blessures de notre vie et les circonstances de notre existence, rien ne supprime cette dignité et rien ne peut l'amoindrir. Voilà. Et ça, c'est très, très important.
Merci Benoît Cinetti. La fraternité, sinon rien, c'est le titre de votre ouvrage, La force transformante de l'Évangile. Merci à vous.
Merci.